Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Renaud, je n'ose plus te poser la question de savoir comment tu vas parce que tout au long de cette saison, nous t'avons vu dans des états, assez maladifs. Hein, depuis au moins l'épisode 2, eh bien, tu toussotes, tu crachotes, es passé par toutes les phases, y compris celle de la coqueluche. Et te voici aujourd'hui atteint, je crois, d'une otite. Alors Renaud, merci d'avoir tenu le coup jusqu'à cette dernière émission de la saison 9. Je remercie également le centre MGEN qui t'a permis de sortir le temps que nous enregistrions cette saison. D'ailleurs, si tu regardes par ta fenêtre, je crois que tu vas voir bientôt arriver l'ambulance avec les infirmiers qui viendront t'y ramener de façon à pouvoir te remettre en état après ce difficile moment.
Voilà, alors je voudrais quand même éventuellement rassurer les auditeurs si besoin était. Effectivement, j'ai de la coqueluche et une otite externe, mais je reste quand même de bonne humeur et suffisamment apte à rester chez moi et à pouvoir enregistrer cette émission. Voilà Eric.
Tu m'en vois ravi. Eh bien Renaud, après cette petite plaisanterie qui n'était que finalement la réponse du berger à la bergère, hein, je te rappelle que je te devais une petite vengeance sur une plaisanterie que tu avais faite il y a quelques émissions. Donc voilà, les compteurs sont à zéro. Et plus sérieusement, nous allons pouvoir reprendre le fil de notre discussion interrompue la semaine dernière sur une question qui semble assez importante à l'issue de toute cette saison consacrée à l'inflation. Et cette question est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le monde d'aujourd'hui, avec les enjeux climatiques que nous connaissons, essayer de mieux redistribuer les richesses produites et surtout essayer d'avoir d'autres types d'indicateurs que ce qu'on apporte à l'entreprise pour laquelle on travaille pour obtenir une rémunération très élevée? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, dans un monde où on souhaite préserver la planète, se dire que finalement, le mode de rémunération doit aussi reposer sur des critères environnementaux et sur l'apport qu'on a à la société et à l'environnement de manière générale?
Oui. Alors on touche là, évidemment, une question absolument centrale et essentielle qui, si je résume en fait un petit peu l'enjeu de ce que tu as présenté, est celle de la mesure des richesses et, comme autant dire les choses telles qu'elles sont, celle du PIB. Parce qu'effectivement, la manière dont les économistes ont conçu cet instrument, et qui est un instrument absolument central et sur lequel repose l'ensemble finalement des analyses économiques, eh bien cet outil, en fait, il peut être questionné. Et la semaine dernière, j'avais terminé en parlant d'une théorie qui m'est chère et qui me semble très importante, qui est celle de la stakeholder theory. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais terminé en parlant de cela. En fait, si on se place au niveau de l'entreprise, et après on va revenir à la question du PIB, mais si on se place au niveau de l'entreprise, il y a deux grandes approches concernant la répartition de la richesse créée par l'entreprise, qui est celle de la shareholder theory et celle de la stakeholder theory. La shareholder theory, qu'on connaît peut-être malheureusement un peu trop, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul propriétaire légitime dans une entreprise et que ce propriétaire légitime, c'est l'actionnaire. Voilà, c'est celui qui détient les droits de propriété sur l'entreprise et qu'à partir de là, tout ce qui est fait dans l'entreprise ne doit avoir qu'un seul objectif, c'est répondre aux attentes de l'actionnaire ou des actionnaires. Milton Friedman, qui a été prix Nobel d'économie, a résumé ça d'une phrase qui est quand même relativement provocatrice, qui consistait à dire que la seule responsabilité sociale d'une entreprise, c'était de faire du profit. Donc une phrase, bien évidemment, qui peut...
Un petit peu assassine.
Qui peut éventuellement nous faire hérisser un peu les sourcils. Son idée, c'était de dire que on peut en penser ce que l'on veut. Le propriétaire d'une maison, il fait ce qu'il veut dans sa maison. Il casse les murs, il tague son intérieur. Eh bien, l'actionnaire, c'est la même chose. C'est le propriétaire légitime, donc il fait ce qu'il veut. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de question à se poser sur la répartition des richesses. La seule répartition juste et efficace et légitime, c'est celle qui est décidée par l'actionnaire. Et si l'actionnaire souhaite récupérer l'intégralité des profits et mettre en place un plan social pour accroître ses profits, eh bien, combien lui fasse, hein, on n'a pas de jugement extérieur à porter là-dessus.
Je ne sais pas s'il faut qu'on porte un jugement là-dessus, mais en tout cas, il faut bien reconnaître que c'est ce qui se passe dans la pratique, non ?
Alors, c'est ce qui se passe dans notre pratique sous couvert, un, de la législation en place, parce que par exemple, aujourd'hui en France, on ne licencie pas librement comme ça. Enfin, malheureusement, on licencie de plus en plus librement suite à la loi travail de 2015. Mais malgré tout, il existe quand même des procédures à suivre, il existe des justifications. Donc oui, aujourd'hui, les actionnaires font ce qu'ils veulent, mais dans le respect normalement de la loi. Et juste la deuxième chose très importante, il y a aussi la question éventuelle de la pression de l'opinion publique, voilà, qui peut éventuellement venir en quelque sorte... réduire la capacité d'action libre des actionnaires.
Voilà, et puis alors on se souvient aussi qu'à une certaine époque, il y avait une certaine catégorie d'employeurs qui étaient taxés de paternalistes, qui essayaient de compenser un petit peu cet aspect très rude du capitalisme en essayant d'avoir une action sociale. Mais ça n'existe, pour ainsi dire, plus, ça n'est plus dans la culture de l'entreprise, n'est-ce pas ?
Oui, alors, bon, c'est compliqué. Oui, ce n'est plus la norme dominante aujourd'hui. Il existe toujours des entreprises dites familiales, hein, dont le capital est détenu par la même famille depuis plusieurs générations, dans lesquelles on peut encore espérer qu'il y ait certain respect de certaines valeurs, d'une certaine façon de voir les relations salariés-employeurs. Il y a aussi le développement important de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'ESS, qui représente aujourd'hui quand même 10% du PIB, ce qui est quand même loin d'être négligeable.
Ah oui, tout à fait.
10% de la richesse créée en France est le fait d'entreprises sociales et solidaires. Alors je rappelle en quelques mots, le principe d'entreprise sociale et solidaire, c'est éventuellement de faire du profit. Ça reste des entreprises, donc leur finalité, ça reste quand même de survivre, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, les entreprises de l'économie sociale et solidaire s'engagent soit à... avoir une éthique dans le recrutement, par exemple, en mettant l'accent sur les migrants, sur les handicapés, sur les personnes qui sont chômage depuis 2, 3, 4 ans, qui sont à la lisière de l'exclusion sociale, soit en s'engageant dans des démarches éco-responsables, par exemple des restaurants qui s'engagent à se procurer leur matière première, leurs produits uniquement dans un espace géographique limité. Donc tout ça aussi, ça peut montrer qu'il existe des alternatives en fait à cette shareholder theory, et c'est justement ce que met en avant la stakeholder theory, qu'on appelle en français la théorie des parties prenantes, et qui consiste à dire que en fait les actionnaires ne sont pas plus légitimes pour décider de la stratégie de l'entreprise que les consommateurs, que les pouvoirs publics, que les associations de riverains, que les salariés, et que en fait on devrait mettre en place un nouveau type de gouvernance où chacune des parties prenantes qui, d'une manière ou d'une autre, voit son bien-être impacté par l'activité de l'entreprise, eh bien, a le même droit de vote à l'Assemblée Générale pour pouvoir décider des orientations de l'entreprise.
D'accord. On considère donc à partir de ce moment-là que l'entreprise, ou toute entreprise de production de manière générale, n'est plus la propriété d'un seul et même individu ou groupe d'individus, mais que c'est plutôt une propriété collective.
Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant, pour en revenir à la question du PIB, c'est qu'en fait, cette approche de la stakeholder theory, elle consiste à dire que la valeur ajoutée créée par l'entreprise, de manière purement comptable, n'est qu'un des éléments possibles de réflexion sur ce qu'est une entreprise et sur l'impact de l'entreprise sur son environnement. Et que si on veut vraiment aller vers un monde de demain, eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un élément parmi d'autres, et que les autres approches ont tout à fait la même légitimité que celle-ci.
En quoi est-ce que tout cela est très différent du communisme, par exemple ?
Ah, parce que alors, dans le communisme, il n'y a pas de propriété privée, et donc là, il n'y a pas d'actionnaires, donc qui n'ont rien à dire. L'idée ici, c'est de dire qu'on maintient malgré tout le système capitaliste, parce que ce système, il est censé avoir des vertus. Par exemple, des vertus en termes d'incitation, d'innovation, de capacité malgré tout à répondre à l'attente des consommateurs, à éviter les pénuries, hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître, en Union soviétique. Donc, on maintient ce système capitaliste, mais dans ce système capitaliste, on met en place un nouveau mode de gouvernance qui va nous permettre d'aller au-delà du pur profit. Alors que le communisme, c'est qu'on fait une rupture radicale avec le capitalisme. Donc, c'est pas exactement la même approche.
Très bien. Bon, j'imagine que ça peut provoquer quand même certaines tensions internes à l'entreprise de savoir s'il vaut mieux réaliser du profit ou avoir un autre impact sur la société et l'environnement.
Oui, mais justement, à partir du moment où tout le monde peut s'exprimer, si les consommateurs, les salariés, les pouvoirs publics, les associations de riverains voient dans une direction, les actionnaires voient dans une autre, c'est tout à fait leur droit, mais en démocratie, ils s'adaptent en fait à ce qu'a décidé la collectivité. Donc il n'y a pas une question de tension, il y a juste une question à un moment de stratégie à mettre en œuvre, et cette stratégie, elle est décidée avec toutes les parties prenantes, et pas simplement avec ceux qui ne reçoivent finalement qu'une partie, enfin, de ceux qui, je te dirais, qui sont minoritaires. Aujourd'hui, les actionnaires, quantitativement, sont extrêmement minoritaires par rapport à tous ceux qui sont touchés directement ou indirectement par l'activité d'une entreprise. Donc c'est plutôt le système actuel qui génère des tensions, des conflits et du mécontentement.
Mais externe à l'entreprise.
Mais externe à l'entreprise, tout à fait. Mais justement, dans la théorie de la stakeholder, on considère que ce n'est pas le droit de propriété que l'on a sur une entreprise qui nous donne plus de droits qu'un autre. Donc oui, on peut être extérieur à l'entreprise et avoir autant de poids, enfin autant de légitimité à avoir un poids. Donc tout ça, ça nous ramène au PIB. Dans une très ancienne émission, nous avions parlé du paradoxe d'Easterlin et de la pyramide des besoins de Maslow. Or, tu t'en souviens peut-être, Eric, ou peut-être pas.
Alors, te dire que je m'en souviens avec beaucoup de précision, ce serait exagérer un peu, mais effectivement, ça m'évoque deux, trois petites choses.
Bon, alors très rapidement. Easterlin, c'est un économiste qui, dans les années 80, découvre quelque chose qui l'étonne énormément et qui étonne la communauté des économistes. Il découvre qu'aux États-Unis, depuis 30 ans, en fait, on a un décrochage de l'évolution du PIB par rapport à l'évolution du bien-être déclaré par les Américains. Il y a des sondages qui sont faits chaque année où on demande aux gens, sur une échelle de 0 à 100, quel est le degré de bonheur que vous estimez associé à votre existence. Et pendant des décennies et des décennies, on avait remarqué que plus un pays s'enrichissait, eh bien plus ses habitants se déclaraient heureux. Parce que forcément, quand on a moins de difficultés à se nourrir du jour au lendemain, quand on a plus la peur du jour au lendemain de se retrouver sans emploi, donc l'enrichissement, donc l'accroissement du PIB finalement était corrélé à l'accroissement du bonheur. Mais en fait, à partir d'un certain point, on s'aperçoit que ce n'est plus le cas et que dans les pays déjà riches, lorsque le PIB s'accroît, eh bien en fait, le bonheur déclaré par les individus soit stagne, soit même diminue. Donc ça, ça a été un grand paradoxe pour les économistes qui se sont dit, mais comment ça se fait? Nous, on a toujours été persuadés que quand un pays s'enrichissait, bien, globalement, les gens pouvaient consommer plus, donc étaient plus heureux. Ça, cet effet, il a été expliqué par la pyramide des besoins de Maslow. Alors Maslow, c'est un psychologue américain qui a mis en place une théorie qui consiste à dire que tous autant que nous sommes, nous avons des besoins et des besoins qui sont serrés par des phénomènes de priorité. Les besoins primaires, se loger, se nourrir, pouvoir s'habiller, ça, ce sont les besoins premiers. C'est-à-dire que si on ne les remplit pas, si on ne les satisfait pas, ces besoins-là, eh bien, on ne peut pas être heureux. Ensuite, on a des besoins dits secondaires. Avoir un smartphone, avoir une voiture quand on habite une grande ville. Voilà, des besoins dont on pourrait se passer, mais qui finalement nous apportent un petit bienfait supplémentaire. Mais ce qu'explique Maslow, c'est qu'une fois qu'on a rempli nos besoins primaires et nos besoins secondaires, eh bien, apparaissent de nouveaux besoins qui sont d'ordre de l'immatériel. Le besoin d'estime de soi, le besoin d'accomplissement personnel, la sensation, en fait, d'être utile, d'avoir réussi son existence. Et quand il interroge des Américains, des Français, des Anglais, des Allemands, qui ont déjà des niveaux de PIB élevés, il s'aperçoit que tout ça passe par autre chose que de l'accomplissement matériel. Parce que cet accomplissement, il a déjà été réalisé. Et donc, à partir de là, ce que l'on veut, c'est du temps. C'est moins de stress, c'est moins de contraintes. Et tout cela ne peut passer que par un temps de travail plus faible, par moins de pression à la productivité. Et ça, c'est contraire avec l'accroissement du PIB. Donc, tout ça, finalement, amène certains économistes à remettre en question, alors Stiglitz est le premier de ces économistes qui a été prix Nobel quand même il y a quelques années, à remettre en question le PIB comme un indicateur pertinent, en fait, pour mesurer de l'efficacité ou de la réussite d'une nation. Et en particulier, beaucoup d'économistes aujourd'hui militent pour qu'on intègre dans le PIB pas uniquement du plus, c'est-à-dire on crée de l'activité économique, donc ça rajoute du PIB, mais qu'on y ajoute du moins. Parce qu'à chaque fois qu'on crée de la richesse, mais qu'on détruit de l'environnement, eh bien on devrait compter négativement cette destruction de l'environnement à l'intérieur du PIB. Et alors identiquement, on pourrait aussi imaginer, par exemple, que quand le taux de pauvreté augmente, eh bien cela, par une construction conventionnelle, contribue à réduire, là aussi, l'indicateur, alors qui s'appellerait plus le PIB, hein, donc c'est un nouvel indicateur, le bonheur intérieur brut, ou que sais-je, le bonheur national brut, on pourrait
dire. Ah, c'est joli.
Mais en tout cas, d'essayer de trouver un indicateur qui ne considère pas que produire plus, être toujours plus productif, générer toujours plus de tensions, de stress, d'inégalités, soit la marque d'un pays qui se développe et qui réussit. Et ça, je pense que, pour en revenir à notre discussion de la semaine dernière, est-ce que le monde de demain va advenir? Je pense qu'il ne pourra advenir que lorsqu'on aura changé de thermomètre, lorsqu'on aura changé d'indicateur qui permet de dire oui ou non, nous sommes un pays qui réussit. Moi, je regrette, mais quand le PIB augmente alors que la pauvreté s'accroît et que les gens font de plus en plus de dépression, je ne considère pas que ce soit une réussite. Et j'aimerais bien, en fait, que ça soit cette information-là qui soit rendue publique et pas simplement de dire « Chouette, l'année prochaine, le PIB va augmenter de 3%. Quelle réussite pour ce gouvernement !»
Alors, Renaud, tout ce que tu nous expliques là semble bien beau, mais effectivement, ça nous projette dans une société où les choses seraient idylliques et où les relations entre les gens seraient presque parfaitement égalitaires. On sait très bien aujourd'hui qu'on est loin du compte et que cette perspective que tu nous offres, elle va générer encore beaucoup de discussions, beaucoup de tensions et beaucoup de résistances. Mais est-ce que tu penses qu'à terme, c'est réalisable ?
Oui, mais alors, une fois de plus, on peut avoir des inégalités dans ce nouveau monde dont je parle. Je ne parle pas d'un monde égalitariste où tout le monde aurait exactement la même chose. On peut, là aussi, collectivement être d'accord sur le fait que quelqu'un qui a été à l'origine d'une initiative, qui a mené un projet, qui a fait preuve de plus, je ne sais pas, de talent, d'efficacité, de vision, enfin que sais-je, puisse avoir finalement une récompense qui soit plus importante que ceux qui ont suivi. Il n'y a pas d'antinomie là-dedans. Donc l'égalitarisme, non, parce qu'effectivement l'égalitarisme sans doute nous mènerait vers un monde où on aurait assez peu d'innovation et d'entraînement et de dynamisme, peut-être, enfin, en tout cas me semble-t-il, au vu des expériences qui ont pu déjà être menées dans ces considérations-là. Mais malgré tout, oui, pendant la dernière présidentielle, il y a un candidat qui avait dit pourquoi pas, pourquoi on mettrait pas un salaire maximum. Moi, je pense que c'est une question qui est loin d'être idiote. Hein, on considère qu'il y a un salaire minimum. Et donc, pourquoi pas un salaire maximum? Pourquoi on ne pourrait pas considérer que quand on gagne 100 fois le SMIC, déjà 100 fois le SMIC, ça va, hein, c'est quand même, c'est pas... Ou 50 fois le SMIC, eh bien, c'est bien. C'est bien. On a... Ah, voilà. Et juste pour... Je vois que le temps tourne et que nous n'avons pas le temps. Je voulais finir sur Mbappé, mais tant pis, c'est pas très grave. Bon.
Très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'est sur ces considérations. Nous allons clôturer cette 9e saison de l'économie pour tous, Renaud. Merci encore pour ton dévouement à cette émission, pour ton implication qui se renouvelle très régulièrement. Et cette année, dans des circonstances un petit peu plus compliquées pour toi, puisqu'on a évoqué tes petits soucis de santé, qui heureusement ne sont pas graves, mais qui t'ont petit peu gâché la vie. On te souhaite donc de te rétablir le plus vite possible. Et on se retrouvera un jour pour une 10e saison.
Voilà, merci Eric. Et moi, je voulais te remercier toi, parce que c'est toi qui as eu l'idée de cette 9e saison autour de cette question de l'inflation. Donc, merci d'avoir relancé la dynamique. Merci de la pertinence de tes questions et du plaisir depuis 9 saisons à faire ces émissions avec toi. Et puis, merci RVM, bien évidemment, de nous permettre de nous exprimer. Et merci aux auditeurs qui, éventuellement, ont suivi nos émissions.
Très bien. Merci et à bientôt, Renaud.
À bientôt, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.